Merci à vous de l'avoir suivi.
Fidèle auditeur de VO Afrique, on se retrouve une fois encore pour parler de sport. Bonsoir à toutes et à tous. Élisée Wongpati devant ce micro. Ce soir, nous allons parler des nouveaux qualifiés pour la CAN des moins de 20 ans à l'issue des tournois zonaux. Dans la zone B de l'UFOA, nous avons le Ghana et le Burkina Faso. Et pour la zone UNIFAC, la Centrafrique et le Cameroun. Et puis, le Mouloudia d'Alger est la dernière équipe qualifiée pour le second tour des interclubs de la CAF à l'issue d'un match rejoué et à polémique face aux Béninois des Buffs du Borgo. Et pour commenter et analyser tout ceci, on retrouve comme d'habitude nos consultants en direct de Columbus dans l'Ohio. Nous avons Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VO Afrique.
Valdo Simbo Yamba Yamba nous rejoint depuis Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VO Afrique.
Nous avons Amine Birouk à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, comme d'habitude avec moi dans ce studio, Lawatine Kosuru. Bonsoir.
Élisée, bonsoir, bonsoir aux auditeurs de VO Afrique.
Bienvenue sur Sporama. La zone B de l'UFOA vient de rendre ses deux qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Mauritanie 2021. Il s'agit du Ghana et du Burkina Faso. Les deux équipes ont obtenu leur ticket après avoir écarté respectivement le Niger et la Côte d'Ivoire. Lawal, on a eu de belles affiches.
Oui, Élisée, c'était un très beau tournoi. Un tournoi qui a permis de voir un peu la qualité des jeunes de moins de 20 ans sur le continent, notamment au niveau donc de cette zone. Le seul regret, c'est pour les Béninois qui n'ont pas pu réussir à se qualifier pour la CAN.
Le Ghana a battu le Burkina Faso en finale. Le Ghana est de retour au niveau des moins de 20 ans.
Le Ghana, tout comme le Nigeria, a toujours montré qu'au niveau de cette catégorie d'âge, il y a de la valeur. Mais ce qu'on regrette est que après les CAN, la Coupe du Monde ou les Coupe du Monde que le Ghana et le Nigeria ont animé de façon avec brio, qu'on ne les sente pas au niveau donc des catégories seniors. C'est là la difficulté.
Ça, c'est un autre débat.
Il y a que on doit pouvoir suivre correctement et bien ces jeunes-là pour qu'ils puissent véritablement prendre la relève demain.
Valdo, la zone UNIFAC aussi a livré ses deux qualifiés, la Centrafrique et le Cameroun, à l'issue d'une qualification palpitante qui a eu lieu en Guinée équatoriale.
Et la RDC ne se retrouve pas parmi les qualifiés, malheureusement, pour cette jeune sélection qui n'a pas du tout démérité. Une défaite au goût amer face au Congo-Brazzaville qui met les léopards out, ce qui est presque devenu une évidence hein, pour la RDC au niveau des jeunes. Ça ne marche pas. Il fallait seulement voir comment est-ce que sont préparés ces jeunes pour participer à ces rendez-vous et qui avaient pour finalité la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Le Cameroun et la République centrafricaine vont bien représenter la zone UNIFAC à ces rendez-vous. Combien important pour l'avenir de chacune des sélections des pays qualifiés. C'est ainsi que les choses sont faites. Pas de qualification, il faut tirer les leçons. Malheureusement, pour certains pays, pour ne pas citer la RDC, il faut tout oublier et surtout ne rien apprendre de ce qui n'a pas marché pour mieux faire à l'avenir, puisque l'improvisation existe et sera bien démise.
Amine Birouk, la zone UNAF, Afrique du Nord, vient aussi de démarrer ses éliminatoires du côté de la Tanzanie. Et là aussi, deux équipes seront qualifiées pour la compétition.
Il y a un démarrage, ma foi, fort laborieux. Tout d'abord parce que l'équipe d'Égypte s'est retirée de la compétition ou a été retirée de la compétition par l'organisation à cause des nombreux cas de Covid. Les Égyptiens ont été incapables d'aligner une équipe avec 11 joueurs et 4 remplaçants. Et puis les conditions du déroulement de certaines rencontres sur des pelouses impraticables comme celle du stade Chedli-Zouiten a suscité l'attention des observateurs et des réseaux sociaux. Le match Maroc-Algérie de vendredi soir s'est déroulé sur une pelouse qui ressemblait vaguement à un terrain de football. Le stade Chedli-Zouiten aurait été fermé pendant 2 ans et n'a été ouvert que la veille de la rencontre. Ça en dit long un peu sur les couacs de l'organisation, d'autant plus que la Tunisie joue sur un véritable billard, le stade de Rhades, qui a été bien préparé pour la circonstance. Autant dire qu'aujourd'hui, il y a 4 équipes alignées pour 2 places. Et visiblement, la Tunisie et peut-être le Maroc sont bien partis pour se qualifier.
Valdo, on revient vers vous. Certains pays en Afrique négligent leurs équipes de catégorie d'âge au profit des seniors dites sélections phares. On l'a remarqué lors de ces tournois juniors.
Élisée, ce que vous qualifiez de négligence est devenu plus qu'une habitude, participer juste pour marquer que le pays a bien pris part, alors qu'il est connu de tous que l'on a qu'à faire de ces jeunes. Ils viennent d'où? Ont-ils besoin que l'on sache qu'ils sont là et qu'ils portent les mêmes maillots que les seniors? Pour certains pays, les choses sont quand même bien faites. Il y a la considération et une prise en charge de leur sélection d'âge. Vous n'avez qu'à voir les résultats qui s'en suivent parce qu'on y a mis du sérieux. Et d'autres, par contre, ont leur regard tourné vers l'Europe à la quête de ceux dont les rêves seraient de jouer pour leur pays d'origine après les 20 tentatives de porter les maillots de X, Y pays. Aussi longtemps que l'Afrique ne va pas former ses propres jeunes, cette négligence, comme vous le dites, persistera encore et toujours.
Amine, à quoi peut-on attribuer ce comportement de nos dirigeants qui sont plus actifs quand il s'agit des équipes seniors?
On peut l'attribuer à une volonté d'avoir une politique court-termiste et surtout vouloir se protéger par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la presse souvent critique avec les résultats de l'équipe nationale première quand ils ne sont pas à la hauteur des espérances de la population. Aujourd'hui, gagner une CAN senior a beaucoup plus de valeur que briller dans les compétitions de jeunes. Mais il va falloir quand même dire que certaines fédérations ont pris le contre-pied de cette volonté court-termiste. C'est le cas par exemple du Maroc, que je maîtrise le plus. Le Maroc a décidé depuis quelques années de se doter d'installations, d'infrastructures et surtout de s'intéresser aux catégories de jeunes avec une restructuration de la direction technique nationale. Ça donnera ses fruits dans les prochaines années. Ce sera le fruit d'un travail de longue haleine et puis d'une volonté de ne pas s'intéresser seulement à la zone de confort. J'espère qu'on rappellera tout simplement que l'Afrique a gagné des Coupes du Monde cadets, juniors, et qu'il va falloir continuer à alimenter les équipes nationales A via ce travail de profondeur dans les catégories de jeunes.
Lawal, l'un des exemples palpables, c'est le Bénin. Et c'est bien déplorable l'organisation qu'il y a eu derrière les écureuils juniors dans cette compétition dont ils sont pays hôte. Un comportement qui laisse à désirer.
Oui, Élisée, il faut comprendre que les dirigeants du foot béninois, tout comme le ministère, n'ont pas comme priorité les catégories d'âge. Seule l'équipe senior est priorisée, est chouchoutée. C'est regrettable. Et même à domicile, qu'on n'ait pu observer ce qu'on a observé là, qu'on n'ait pas pu trouver des maillots de qualité à ces joueurs et que le dossard diffère donc du numéro porté sur le shirt et que le maillot ne soit pas de bonne qualité, c'est triste. Un pays qui se respecte, on devrait déjà commencer par démissionner à compter du ministère jusqu'à la tête de la fédération, jusqu'à la tête de la gestion du comité technique de gestion de l'équipe junior. C'est triste pour le Bénin, mais comme on est dans un pays, comme l'a dit le président, dans un pays de pagaille, la bagarre continue à tous les niveaux et c'est triste.
Ahmedine, des pays comme le Sénégal ont comme priorité la formation des jeunes.
Oui, Élisée, car désormais, les équipes de jeunes sénégalais participent aux éliminatoires des CAN U20, U17, etc. D'ailleurs, le Sénégal a déjà réussi à participer à deux Coupes du Monde chez les U20. Et dans la catégorie des U17, le Sénégal a été finaliste de la CAN perdue face au Mali. Cela veut dire tout simplement, Élisée, que les responsables du football sénégalais ont compris l'enjeu pour les compétitions des jeunes, surtout avec l'avènement du centre technique Touab Dialaou, qui porte le nom de Jules François Bokandé. C'est une infrastructure qui dispose de deux terrains, avec gazon synthétique et gazon naturel, un local d'hébergement, restaurant, etc. C'est comme le Clairefontaine sénégalais. Donc, depuis l'avènement de ce centre, les équipes des jeunes du Sénégal peuvent se regrouper là-bas. Les responsables n'ont plus besoin d'héberger les équipes de petite catégorie au niveau des hôtels qui coûtaient excessivement cher. Depuis lors, le Sénégal commence à avoir des résultats. D'ailleurs, la fédération comptait lancer un championnat au mois de mars dernier, un championnat réservé aux équipes des U17 et des U20, un championnat national pour la première et la deuxième division. Mais le corona est passé par là, Élisée. J'espère que ce n'est que partie remise, Élisée.
On connaît désormais tous les qualifiés pour le second tour de la Ligue africaine des champions de football. Le dernier match du tour préliminaire retour a été joué à Alger. Et ce sont les Algériens du Mouloudia qui se sont qualifiés après avoir battu les Béninois des Buffs du Borgou sur la marque de 5-1. Lawal, une nouvelle déception pour le club de Parakou, éliminé une troisième fois de suite au tour préliminaire de cette compétition.
Non, c'est tout le niveau du foot béninois qui est mis en cause parce qu'on ne peut pas être champion trois fois de suite et se faire éliminer à chaque fois à la phase préliminaire. C'est triste. Esaïe, c'est juste l'éclair qu'on a vu dans tout un monde d'obscurité. Esaïe, c'est un éclair. Ce n'est pas le niveau réel du foot. On aurait aimé avoir des équipes de qualité et qu'on puisse dire, voilà, c'est les Béninois. C'est vrai que l'embellie de la CAN continue donc de faire rêver. Mais à l'interne, ce n'est pas encore ce qu'on aurait aimé avoir pour les Béninois.
À Médine, venir la veille et jouer un match aussi important le lendemain, la CAF n'a pas rendu service aux Béninois.
Tout à fait, Élisée, la CAF n'a pas rendu service aux Béninois, car non seulement ils sont venus la veille du match, mais les joueurs du club sacré champion du Bénin ont galéré avant de rallier Alger. Un vrai chemin de croix, puisque le voyage a duré plus de 24 heures. Donc, c'était mission impossible pour les Buffles qui se sont finalement inclinés sur le score de 5-1. Mais sachez, Élisée, que le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre, car malgré le début encaissé dès le premier quart d'heure, les Buffles ont réussi quand même à réduire le score à la 16e minute à 2-1. Tout restait possible car Buffles avait fait match nul lors de la première manche. Si Buffles avait réussi à marquer un but, c'était la qualification acquise. Mais la fatigue a eu raison des Béninois qui ont encaissé 3 buts dans le dernier quart d'heure. Maintenant, Moulia se qualifie et retrouve les Tunisiens de Sfax pour le dernier tour. Élisée.
Valdo, la CAF aurait pu rejouer aussi les matchs retour à Santi Kotoko, FC Nouadhibou, tout comme Stade Malien, Agenti Golden Bond de la Guinée.
C'est compliqué de se prononcer sur une telle position de la CAF revenant sur un match et pas l'autre. On a tendance à croire que c'est du deux poids deux mesures, mais je pense fort bien et même convaincu que la CAF a trouvé le pourquoi de faire jouer ces matchs retour qui bousculent un tout petit peu son calendrier, contrairement à sa décision catégorique de ne pas faire jouer à Santé Kotoko Nouadhibourg ou Stade Malien à Chanty Golden Boy. Cette CAF est passée par beaucoup d'épreuves en cette année 2020. Elle sait aussi que le monde du football a un regard critique sur son fonctionnement et elle a intérêt à bien apprécier ses décisions, surtout en pareil cas. La pandémie à Covid-19 ne doit pas être un prétexte pour ne pas jouer son match, surtout que si cette décision est prise unilatéralement. Je suis donc tenté de dire que la CAF, après ses investigations, a pris la décision qu'il fallait.
Amine. Et pourtant, à cause de cas positifs au coronavirus, la demi-finale retour de la saison écoulée, Zamalek Raja, a été reprogrammée.
Je pense qu'il y avait des contraintes de calendrier beaucoup moins exigeantes par rapport au match Zamalek Raja. Il y avait la possibilité de reprogrammer ces rencontres sans avoir à altérer la fin du calendrier de la saison dernière. Là, il y avait des contraintes de temps et puis il faut juste rappeler qu'il y avait une législation nationale qui empêchait l'équipe marocaine de quitter le territoire étant donné le nombre de cas de Covid dans l'effectif du Raja de Casablanca. Là, les choses étaient différentes et c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons vu des équipes éliminées à cause des cas de Covid. Il faut aussi rappeler qu'il y a eu un cahier de charge qui a été signé pour cette saison et ratifié par toutes les équipes. Et c'est en fonction de ce cahier de charge que les décisions ont été prises d'éliminer l'équipe de Buffles, de FC Nouadhibou ou encore d'Ashanti Gold de Guinée.
Merci Amine. Plus loin Lawal, les difficultés que les Buffles ont connues avant de jouer ce match nous amènent à la question du type de dirigeant du club des championnats non professionnels. Un riche milliardaire ou un technocrate gestionnaire?
Non, Élisée, le milliardaire ferait l'affaire, certes, mais il faudrait qu'il s'accompagne donc de technocrates. Mais quand on prend le cas du Bénin, que je connais mieux que d'autres pays, on se rend compte que c'est simplement des gens qui ont l'argent, qui gèrent les clubs, ils en imposent. ils imposent leur volonté, leur dictat à tout ce qui doit se passer. Et comme on a senti que véritablement, au niveau de la fédération, par le passé, le président, c'est lui le tout-puissant, c'est lui qui dit les joueurs, par exemple, qui vont jouer tel match au niveau de l'équipe nationale. Donc, quand ça se passe comme ça, on ne peut pas obtenir des résultats.
Mais aujourd'hui, pourquoi les milliardaires au Bénin refusent d'associer des technocrates, ceux-là qui maîtrisent la chose sportive?
Le milliardaire est un inculte en matière de sport. Donc, associer technocrate, pour lui, c'est peut-être rabaisser son ego. Et on n'aime pas se rabaisser à ce niveau-là parce qu'on se dit, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Et dans ces conditions, le technocrate sera comme un obstacle pour le milliardaire dans la volonté de gérer. Donc, on ne va pas lui faire des propositions qu'il va accepter facilement. Et c'est ça le problème. Maintenant, aujourd'hui, cette réforme de transformer les clubs en sociétés sportives, si le ministère pouvait l'apporter... Au mieux,
on ne peut pas créer un club hier et le faire jouer en première division le lendemain.
Non, c'est la désillusion du ministre béninois des Sports. Malheureusement, c'est des illusions. Aujourd'hui, qu'on propose 40 clubs pour je ne sais pas quoi. Non, c'est carrément de la pagaille. Les règles du foot sont sacro-saintes. Il faudrait qu'on les respecte en même temps que les membres du comité exécutif de la fédération.
Amine, si on considère les grands clubs en Europe comme des multinationales, donc le football est comme une industrie.
En Europe, les modèles fonctionnent parce qu'il y a une bonne gouvernance. Les deux se valent. Et en termes de gouvernance, en Europe, il y a des process qui sont respectés. Et donc quand l'investisseur arrive à acheter des actions, il a derrière lui une administration et une gouvernance. Même cas pour le technocrate qui viendrait intéresser les sponsors et de nouvelles aides financières. Et là, les argentiers n'arriveront que s'ils voient de la lisibilité en termes de gestion. Donc en Afrique, il va falloir qu'on s'attelle à cette tâche et que ce soit un riche milliardaire ou un technocrate gestionnaire. Si l'on se dirige vers la professionnalisation, il faut mettre des process, avoir avec soi une administration forte qui respecte un modèle de gestion rationnel à même de permettre de franchir un gap dans la gestion.
Valdo, même dans leur propre entreprise, les milliardaires se reposent sur les technocrates pour conduire leur projet, ce qu'on peut remarquer au TP Mazembe de Lubumbashi.
Tout à fait, Élisée, être riche est une chose, savoir investir dans le football en est une autre. Le football, comme la vie, ça ne vous donne pas toujours les résultats attendus tout le temps. Aujourd'hui, l'on cite les noms de Moïse Kietoumbi parce que son investissement a porté fruit. L'on ne parle pas des années de disette. C'est Mazembe qui avait comme bête noire les clubs du Maghreb. On n'en parle plus simplement parce que cet homme a, par sa vision, su combiner les deux. Les objectifs fixés à l'époque ont tous été atteints et cette machine a trophée et s'est même exporté en dehors du continent jusqu'à jouer la finale de la Coupe du Monde des clubs en 2010, résultat d'un investissement réussi. Et là, ça fait un bon bout de temps que Mazembe ne gagne plus la Ligue des Champions et Katumbi est à la quête de la formule pour renouer à ses habitudes. Si leur richesse pouvait faire deux technocrates, ils les seraient devenus, mais les plaisirs qu'ils ont en regardant les autres faire n'enlèvent en rien de ce qu'ils ont comme richesse.
Lawal, au Bénin, on n'est même pas encore dans un système où on peut parler de business du sport. Il faudra d'abord jeter les bases avant de lancer le processus proprement dit afin d'attirer les vrais investisseurs.
Élisée, le souhait c'est ça, l'idéal c'est ça. Mais au Bénin, on n'est pas encore prêt. C'est vrai, le ministre a lancé une idée, mais qu'il veut imposer.
Qu'il ne peut pas porter.
Il veut l'imposer, c'est ça le mal même de l'idée. On ne peut pas l'imposer de cette façon. On doit pouvoir faire une période transitoire, le temps de permettre aux acteurs de se préparer. Sans préparation aucune, mais à moins que le ministre veuille amener les sociétés d'État ou les autres à véritablement le faire. Parce qu'on a senti déjà qu'il y a une société qui est sponsor du foot béninois, mais une société qui appartient à qui l'on sait dans le paysage politique de ce même pays, le Bénin. Donc, on ne peut pas faire les choses telles que ça se passe là, au risque d'aller droit dans le mur.
On se dirige vers vous, Amédine. Alors, comment les clubs sont-ils gérés au Sénégal?
Élisée, au Sénégal, les clubs sont gérés par des riches car presque toutes les équipes sénégalaises fonctionnent grâce au denier personnel des présidents. Sachez, Élisée, qu'au Sénégal, les recettes de billets sont très très faibles et le sponsoring n'existe presque pas. Et les clubs n'ont que la vente des joueurs pour faire des rentrées d'argent, ce qui n'est pas du tout évident. C'est pourquoi d'ailleurs, des clubs comme Génération Foot avec les FC Metz, Djambar avec Marseille et Dakar Sacré-Cœur avec Lyon ont noué des partenariats que je trouve intéressants car ces clubs sont les plus nantis au Sénégal. D'ailleurs, ils disposent d'infrastructures sportives. Il faut dire que les autres clubs fonctionnent grâce à leur président. C'est le cas de nos deux représentants en Coupe d'Afrique. Je veux parler de Tenguet FC avec le président Babacar Ndiaye et le Djaraf avec l'ancien international sénégalais Cheikh Sek. C'est vraiment regrettable, mais ça fonctionne comme ça au Sénégal. Pourtant, au Sénégal, il y a le foot professionnel depuis 2009. Le foot professionnel n'est que de nom. C'est regrettable. Élysée.
RDC, Florent Ibengue est nommé entraîneur de la sélection locale à un mois du championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs évoluant sur le continent. Le vainqueur du Chan Rwanda 2016 conduira les Léopards A' à la sixième phase finale de cette compétition prévue au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021. Florent Ibengue sera assisté des techniciens Pamphile Mihayo et Daouda Lopembe. Valdo, bonne nouvelle pour la RDC qui débutera la compétition face au rival congolais de Brazzaville.
Pourquoi le retour en sélection de Florent Ibengue serait une bonne nouvelle? Simplement parce que le Congo n'a pas connu mieux. Depuis qu'il est parti et son retour apaise les esprits, qu'il gagne ou pas, on l'aime. Cet homme qui a réussi à se faire de la place dans le cœur de nombreux Congolais et non-Congolais, ça y est là. C'est un gros challenge pour lui, vainqueur en 2016. Il n'a donc pas mieux à faire que de l'emporter à nouveau. Or, là, nombreux sont ces locaux qui sont partis monnayer leur talent à l'étranger, ces véritables lieutenants. Ces retours cachent également certaines faiblesses dans la gestion du football congolais. Le problème est ailleurs. La FECOFA, Ibengue et certains avertis les savent bien. Il n'y a pas du vrai à un certain niveau. Moi, je le vois même revenir en équipe première, si et seulement s'il réussissait ses chans. Pour cette fois-là, partir sur de nouvelles bases qui pourront aboutir par une qualification à la Coupe du Monde.
Amédine, la FECOFA a montré clairement ses ambitions.
Tout à fait, Élysée. Avec le recrutement de Florent Ibengue, la Fédération congolaise de football affiche ses ambitions car Ibengue n'est pas n'importe qui, c'est un secret de polichinelle. Florent Ibengue est un très grand technicien. C'est un renfort de taille pour les Léopards car Ibengue a déjà fait ses preuves avec le Vita Club. D'ailleurs, il est l'entraîneur fétiche de cette formation. Il a déjà remporté le Chan en 2006 et puis il joue les Léopards. Hein. Certes, ce n'est pas l'équipe A, c'est l'équipe A prime composée de joueurs locaux, mais Ibengue connaît bien la maison. Je pense qu'avec l'arrivée de Ibengue, la RDC a beaucoup de chances de remporter le Chan pour la troisième fois après 2009 et 2016. Élysée.
Amine, quand on voit les difficultés que rencontre la sélection senior lors des éliminatoires de la CAN 2021, il était impérieux que la fédération fasse un bon choix bien osé.
On peut dire que c'est le choix du moindre risque. Florent Ibengue a déjà emporté le Chan avec cette sélection Rwanda. Il connaît en profondeur les forces vives du football congolais. La seule chose qui me dérange, c'est qu'il ait quitté la sélection locale et la sélection A après la dernière CAN, qu'il était renvoyé de cette façon-là et qu'on fasse appel à lui. Il aurait mieux valu continuer à lui faire confiance même après le fiasco de la CAN en Égypte, quitte à rebâtir une nouvelle sélection, mais en comptant sur son expérience, sur son expertise. Aujourd'hui, la RDC est en difficulté dans les éliminatoires de la CAN 2022. Il est nécessaire de battre le rappel des forces pour ce Chan. Et à un mois de la compétition, le moins que l'on puisse dire, c'est que Florent Ibengue aura du pain sur la planche pour que le Congo ou la RDC puissent briller dans cette compétition qui aura lieu dans moins d'un mois.
Lawal, l'expérience d'Ibengue a parlé pour lui. Quand on sait que Pamphile Mihayo ou encore Daouda Lopembe, qui est en train de réaliser un bon début de saison avec Manema Union, peuvent aussi se voir confier ce poste.
Non, Florent Ibengue, on le connaît avec tout ce qu'il a réussi à faire avec les Léopards du Congo. Je pense que son retour, le fait qu'il ait même allé pu prendre un club congolais, c'était pour moi, hein, c'était comme une chute pour lui. Maintenant, quand on le met sur le devant de la scène du foot congolais aujourd'hui, ce n'est que justice. Mais on espère qu'il va rééditer l'exploit de 2016 avec ce Chan et qu'il va permettre aux Congolais d'avoir l'unanimité encore plus autour de lui.
Sporama qui s'achève. Merci Lawal.
Élysée, c'est moi.
On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.